Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, nous vous proposons pour cette nouvelle émission Au fil des pages un nouveau voyage au centre de la Terre. L'auteur n'est pas Jules Verne, mais l'académicien des sciences Vincent Courtillot, qui a baptisé ainsi son livre comme un clin d'œil au romancier visionnaire. Vincent Courtillot est avec nous pour nous présenter cet ouvrage, Nouveau voyage au centre de la Terre, paru en septembre 2009 aux éditions Odile Jacob. Vincent Courtillot, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation au studio de Canal Académie. Pour vous présenter, vous êtes professeur de géophysique à l'université Denis Diderot, Paris 7. Et vous dirigez l'Institut de physique du Globe de Paris. Et dans votre livre « Nouveau voyage au centre de la Terre », vous endossez non seulement la tenue de géophysicien, mais aussi celui du climatologue. Et dans la première partie de votre livre, vous expliquez les liens entre ces deux disciplines et surtout que le système climatique est forcé par trois causes. La première, le soleil. Et puis, deuxièmement, les changements légers de l'orbite de la Terre dus aux effets perturbateurs des autres planètes. Et troisième point, qui là, pour nous, pourrait sembler un peu plus curieux, mais vous allez pouvoir nous en parler dans quelques instants, la tectonique des plaques. Alors, en quoi la tectonique des plaques, les tectoniques des plaques ont-elles un rôle à jouer dans le contrôle du climat, Vincent Courtillot?
Eh bien, la Terre est une grosse machine thermique. Elle s'est fabriquée il y a bien longtemps, il y a 4 milliards 500 millions d'années, par l'agglomération de petits morceaux de planétésimes qui sont entrés en collision les uns avec les autres. Elle a accumulé la chaleur. À cause de cette chaleur, elle s'est différenciée. Le fer qui était plus lourd est tombé au centre et il a formé le noyau de la Terre en laissant au-dessus ce qu'on appelle le manteau. Le manteau, c'est un énorme volume de roches. Ces roches, en fait, sont assez semblables aux roches silicatées, au granit ou au basalte qu'on rencontre à la surface de la Terre. La seule différence, c'est qu'aux températures et aux pressions qui règnent à l'intérieur de la Terre, ce matériau est capable de bouger, de fluer à l'échelle des temps géologiques, évidemment à des vitesses qu'on compte en centimètres par an, ça ne va pas très vite, mais si on a la patience de temps du géologue, eh bien on voit que ce manteau, c'est comme une véritable bouilloire, il est en train de remuer dans tous les sens, il est agité par ce qu'on appelle des courants de convection, et la dérive des continents en surface, c'est tout simplement le dessus de la carapace qui cache ce manteau qui bouge dans la casserole de la Terre, et le système étant chaud, il lance à la surface ses volcans, volcans se dégazent et c'est eux qui fabriquent l'atmosphère.
Alors ça semble très simple quand vous l'expliquez et pourtant c'est une hypothèse qui semble un peu incongrue pour certains scientifiques.
Le fait que la Terre ait fabriqué le climat ne pose pratiquement plus de problème à personne. Ce n'est pas tout à fait vrai parce que récemment, il y a un certain nombre de gens qui ont pensé que l'atmosphère d'origine de la Terre avait peut-être été soufflée par le Soleil. Quand le Soleil était jeune, il était très intense et il a pu souffler notre atmosphère. Et elle aurait réaccumulé une nouvelle atmosphère à partir de comètes qui seraient tombées sur la Terre. Donc il y a plusieurs hypothèses. Mais enfin, actuellement, ce sont les volcans du globe qui crachent gaz carbonique, gaz sulfureux et d'autres gaz qui, petit à petit, contribue à la composition de notre atmosphère. Ce n'est pas la dérive des continents qui contrôle étroitement le climat d'aujourd'hui à l'échelle de 10 ans. Et donc, quand on passe de la géologie à la climatologie, il y a des liens, mais il faut faire attention aux échelles de temps, de l'échelle à l'origine très longue du géologue à l'échelle humaine du climatologue.
Alors, on est dans l'ère du réchauffement climatique, on en parle beaucoup à travers l'actualité. Est-ce que les climatologues doivent faire de la géologie et inversement, les géologues faire de la climatologie pour pouvoir ensemble trouver de nouvelles réponses parfois des questions où ils avaient déjà des réponses mais qui n'étaient pas forcément tout à fait les bonnes.
Ma réponse est très simple et elle est oui. Il est toujours utile de travailler aux frontières. Dans beaucoup de disciplines, quelqu'un qui attaque un problème nouveau pour lui avec des méthodes venant d'une autre discipline peut trouver parfois des résultats plus intéressants et plus rapides que quelqu'un qui essaierait d'approfondir sans cesse le même sujet. Bon, c'est très important d'approfondir. C'est important aussi de garder l'esprit ouvert aux frontières. Nous, les humains, nous vivons à la surface de la Terre solide. Donc, sous nos pieds, la Terre solide des géologues. Nous respirons l'atmosphère des climatologues et des météorologues. météorologue. Nous avons évidemment une autre enveloppe fluide, c'est l'eau, l'hydrosphère, c'est-à-dire essentiellement l'océan. À l'interface entre ce monde fluide et ce monde solide, il se passe énormément de choses. Il se passe de l'érosion, de l'altération, des échanges chimiques entre les sols et l'atmosphère. C'est tous les problèmes de l'agriculture. Et puis, à travers les gaz des volcans ou l'influence, et on verra, du soleil ou bien de l'homme qui rejette du gaz carbonique dans l'atmosphère, eh bien, tout cela évolue sans cesse à des constantes de temps qui peuvent être relativement rapides. On croyait autrefois qu'on pouvait comprendre l'atmosphère sans rien savoir de la géologie. Ce qu'on est en train de suggérer, c'est qu'il vaut mieux en savoir un peu.
Alors, on l'aura bien compris, dans ce livre, le premier chapitre, la première partie, est consacrée justement à ce rapport entre géologie et climatologie. Et puis après, la deuxième partie, on entre plus au centre de la Terre, de la même manière que Jules Verne, que d'ailleurs vous citez à chaque début de chapitre. Et venons-en donc, quand on entre au centre de la Terre, aux points chauds, les points chauds qui sont les vedettes hein, de votre ouvrage.
Oui, et puis alors, aussi, tout à fait, les points chauds sont ma vedette pour ce livre, pour une raison relativement simple. Dans ma génération, j'ai 61 ans, et j'ai eu la chance d'avoir 20 ans au moment de la révolution de la tectonie des plaques, quand on commençait à comprendre la version moderne de la dérive des continents, cette dérive des continents semblait tout expliquer. Et en particulier, elle expliquait la géographie des tremblements de terre et des volcans à la surface du globe. On sait par exemple que toute la ceinture de feu du Pacifique correspond à ce qu'on appelle aujourd'hui des zones de subduction, c'est-à-dire des zones où le fond solide du Pacifique, la lithosphère pacifique, s'enfonce d'un côté sous l'Amérique du Sud, sous l'Alaska, sous le Japon, un peu partout, et crée ces tremblements de terre et ces volcans magnifiques. Et donc, on avait l'impression qu'on avait presque tout compris avec la tectonie des plaques. Et puis, on s'est aperçu très vite, d'ailleurs, deux noms principaux doivent être cités, le grand géologue canadien Tuzo Wilson et le grand géophysicien américain Jason Morgan se sont dit « mais il y a des gros volcans » qui ne collent pas avec la tectonique des plaques. Le plus célèbre pour eux, puisqu'ils étaient basés en Amérique du Nord, c'était Hawaï. Nous en avons un bien à nous. C'est le volcan du Piton de la Fournaise à La Réunion, qui vaut largement le volcan d'Hawaï. Ce sont d'énormes volcans boucliers, aux laves basaltiques très fluides, qui s'écoulent calmement, qui donnent des volcans très plats, et ce qu'on appelle en gros les volcans rouges, et qui ne sont pas des volcans dangereux, contrairement aux volcans des zones de subduction, qui sont des volcans gris, explosifs, et eux, très dangereux. Et donc, ces volcans d'Hawaï ou de la Réunion, pourquoi est-ce qu'ils sont là au milieu d'une plaque, loin de toute frontière ? Eh bien, la raison, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'il existe dans le manteau terrestre, dans cette casserole qui est en train de bouillir, d'autres façons de bouillir que les grands, majestueux courants de convection de la dérive des continents. Il y a des moments où il y a des instabilités qui viennent des profondeurs du manteau, qui vont vers la surface. On les appelle des panaches. C'est du matériau qui est plus chaud, moins visqueux et qui grimpe quelquefois à des vitesses de l'ordre du mètre par an vers la surface, qui va percer la plaque et déclencher à la surface un volcan. Ce sont les volcans de points chauds.
C'est ce qui explique la raison pour laquelle on retrouve donc des volcans au milieu de ces grandes plaques.
Et comme les plaques dérivent sur ces panaches, il faut s'imaginer un peu une feuille de papier qui défilerait au-dessus d'une bougie. Eh bien, la flamme de la bougie va brûler une tache noire, faire un volcan sur la feuille de papier. Et si la feuille de papier se déplace, eh bien, ce volcan va s'éteindre et il s'en allumera un autre plus tard. Et c'est ainsi que derrière les volcans actifs des points chauds de Hawaï ou de la Réunion, il en existe au moins une dizaine d'autres, eh bien, il y a des volcans sous-marins qui sont des volcans éteints, qui sont les traces passées de l'endroit où était le panache. Et ça permet de reconstituer la façon dont ont bougé toutes les plaques par rapport à tous les points chauds.
Avec les points chauds, il y a également les trappes, qui sont les zones d'écoulement de lave. C'est la preuve de points chauds, les trappes ?
Alors, c'est une preuve de points chauds si on veut. C'est surtout pour moi la preuve de la façon dont ils ont démarré. Il est clair que le volcanisme de l'île de la Réunion ou de l'île d'Hawaï est impressionnant, mais il est minuscule par rapport au volcanisme des trappes dont vous venez de parler. Alors, je rappelle un peu ce que c'est qu'un trappe. Un trappe, c'est un empilement de coulées de lave basaltique qui peut atteindre plusieurs kilomètres d'épaisseur sur des surfaces de plusieurs centaines de milliers à plusieurs millions de kilomètres carrés.
Comme en Russie, par exemple.
Voilà, comme en Russie, les trappes de Sibérie, comme en Inde, les trappes du Deccan, comme au Groenland et dans le nord-ouest de l'Angleterre, les trappes de ce qu'on appelle l'Atlantique central, comme en Amérique du Sud, les trappes du Paraná, en Afrique du Sud, à côté des diamants, ce sont les trappes du Karoo. Il y a comme ça une dizaine de ces objets. Pour qu'on s'en fasse une idée, imaginons la surface de la France couverte de 4 km de lave. Bon, ce gros objet, il est en fait au bout de l'alignement des volcans. Si par exemple, on suit sur une carte la trace du volcan de la Réunion vers le nord, on tombe d'abord sur l'île Maurice, qui est un volcan un peu plus vieux, un peu plus froid, donc qui s'est affaissé, mais qui est encore au-dessus de la surface de l'eau et qui est vieux de 2 à 7 millions d'années, alors que l'île de la Réunion s'est formée depuis 1 ou 2 millions d'années seulement. Et puis, quand on monte vers le nord, on a des volcans de plus en plus vieux qui ont 20, 30, 40, 50 millions d'années. Et au bout de ça, on tombe sur l'Inde, sur les énormes trappes du Deccan. Et ces trappes du Deccan, on les a datées. Ils ont 65 millions d'années. Ils marquent la naissance du point chaud. Et donc, quand vous me demandez si les trappes sont la preuve des points chauds, je dirais les trappes sont la marque de la naissance du point chaud. Ce qu'on sait maintenant, c'est que quand ces objets commencent à se fabriquer, c'est-à-dire quand au sein du manteau en profondeur, une instabilité commence à grimper, comme dans ces lampes dans lesquelles on chauffe de la cire rouge ou des colorants et on voit monter des espèces de blobs vers la surface, eh bien ce panache ou cette instabilité, elle a une énorme tête et une toute petite queue. L'énorme tête, quand elle arrive à la surface, elle va donner ces gigantesques épanchements des trappes. Et ensuite, quand la plaque dérive, il ne reste plus que la petite queue qui va fabriquer des plus petits volcans. Hawaï et La Réunion sont aujourd'hui au-dessus d'une queue de points chauds, tandis que les trappes dont on a parlé tout à l'heure sont tous la naissance à l'origine de plusieurs des grands points chauds de la planète.
Et ces trappes, alors qui s'étendent comme ça sur plusieurs milliers de kilomètres, ont une durée de vie limitée, j'imagine, vu que ces plaques se déplacent?
Alors oui, tout à fait, les trappes ont une durée de vie limitée. On a commencé à les dater assez bien il y a une vingtaine ou une trentaine d'années et on s'est aperçu que la plupart du volcanisme s'étalait sur environ 1 million d'années. C'est quelque chose qui est court pour un géologue, long pour un être humain, mais disons qu'un million d'années pour un objet qui a 65 millions d'années, c'est ce que vous dites, c'est la durée de vie du début de la tête quand elle est entrée en éruption, puis ensuite la plaque a dérivé. Ce dont nous nous sommes aperçus beaucoup plus récemment en revenant en Inde, sur les trappes du Deccan, avec des collègues et en remesurant soigneusement les propriétés magnétiques de la lave avec une petite astuce, nous avons réussi à montrer que ces coulées de lave étaient encore beaucoup plus grosses que ce qu'on croyait. Une unique coulée peut parfois atteindre 10 000 km3. Pour vous donner une idée, la plus grosse coulée basaltique des 1000 dernières années sur Terre s'est produite en Islande en 1783 et elle faisait 15 km3. 15 km3 pour la plus grosse coulée historique, 10 000 km3 pour certaines des coulées du Deccan, et ces coulées se sont mises en place très vite. C'est l'autre chose surprenante que nous avons pu montrer récemment, c'est qu'il n'a fallu que quelques années, quelques dizaines d'années pour mettre en place ces coulées. Donc, quand ces coulées entraient en éruption à la surface de la Terre, elles donnaient des phénomènes qu'on n'a jamais plus vus sur Terre depuis 15 millions d'années. Un objet de 10 000 km3 de lave qui sort en 10 ans, ça sort une quantité de gaz carbonique, une quantité de gaz sulfureux, qui est le poison principal pour la vie sur Terre, absolument faramineuse. Et c'est probablement ça qui fait qu'un certain nombre des grands trappes sont responsables des extinctions en masse d'espèces.
Et nous y reviendrons dans quelques instants. Auparavant, quelle est l'énergie à l'origine de ces volcans, de ces écoulement également de lave?
Alors, l'énergie à l'origine, c'est celle qui fabrique ces instabilités. Les plus grosses d'entre elles, nous pensons avoir réussi à montrer en auscultant l'intérieur de la Terre, c'est ce que j'explique dans mon voyage au centre de la Terre, c'est le refroidissement de la planète. La planète cherche tous les moyens possibles pour se refroidir. Elle a été formée, je disais ça tout à l'heure, il y a 4,5 milliards d'années, très chaude. Elle ne cesse de refroidir et elle ira absolument vers le refroidissement comme la Lune à terme. Si elle était complètement refroidie, il n'y aurait plus de champ magnétique, il n'y aurait plus de tectonique des plaques. Elle ne l'est pas, heureusement pour nous. Et il y a encore un champ magnétique sur Terre qui nous protège d'un certain nombre d'événements extérieurs. Et il y a ces plaques qui dérivent, cette atmosphère qui sont toujours là. À l'origine, eh bien, le noyau de la Terre de fer est brassé par des courants puissants. À l'intérieur, il se fabrique en plus le champ magnétique de la Terre parce que ce fer est conducteur de l'électricité. Le fer, c'est très liquide. Donc, ce fer brassé ramène très vite la chaleur à la base du manteau. Mais le manteau, il est beaucoup plus visqueux. Donc, la chaleur s'accumule, s'accumule, s'accumule dans une couche que les sismologues appellent la couche d'Esgonde, une couche d'une centaine de kilomètres à 2800 kilomètres sous nos pieds. Et cette couche, de temps en temps, eh bien, quand elle est suffisamment épaisse, suffisamment chauffée, elle va lâcher un blob. Et ce blob va grimper à travers le manteau et finir par arriver à la surface. Donc la source d'énergie, c'est le refroidissement du système Terre, mais c'est aussi le fait que la Terre est faite d'enveloppes aux propriétés très différentes. Ce noyau de fer si fluide et si actif, surmonté de ce manteau si visqueux.
Bon, écoutez, quand on vous écoute, on comprend tout, on a l'impression d'être très intelligent. Venons-en à la troisième partie de votre ouvrage consacré à l'extinction des espèces. Alors, nous renvoyons nos auditeurs vers une émission que nous avons réalisée précédemment sur les éruptions volcaniques et la disparition des espèces. Dans votre ouvrage « Nouveau voyage au centre de la Terre », vous donnez d'autres arguments, d'autres informations, puisque en matière de recherche, les connaissances avancent dans ce milieu-là. Que peut-on dire maintenant sur l'extinction des dinosaures ? Maintenant, je crois qu'en Europe, la dominante, c'est de penser que l'extinction des dinosaures est la conséquence de ces éruptions volcaniques intenses. Qu'en est-il aux États-Unis et quelles sont les explications que l'on peut donner aujourd'hui ?
Alors d'abord, vous avez raison de dire que ce livre, il est aussi un peu un travail personnel ou un travail d'une équipe plutôt, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de gens qui travaillent et de plusieurs équipes, mais que c'est aussi un travail humain et qu'il change au cours du temps. Donc nos découvertes principales, on a commencé à les faire en Inde autour des années 86. Le livre dont je vous avais parlé lors d'une précédente émission, il est sorti, si je me souviens bien, en 95, donc c'était une dizaine d'années après la découverte. Et depuis, presque 15 ans de plus sont passés et nous et d'autres équipes ont pu accumuler énormément d'autres preuves. Et ce que je présentais comme une hypothèse à laquelle je croyais bien en 95, mais qui n'était pas démontrée définitivement et qui n'était pas acceptée par tout le monde, eh bien, il n'a cessé de s'accumuler des évidences pour montrer que c'était bien la règle générale. C'est-à-dire qu'alors qu'en 1980, à la suite de l'hypothèse géniale de Luis et de Walter Alvarez, on a pensé que c'était une météorite tombée sur le Mexique qui était responsable de la fin des dinosaures. Et cette météorite, je pense qu'elle est bien tombée vers cette période-là, à cet endroit-là. Je ne la remets pas en cause. Je m'aperçois simplement, en mesurant les conséquences environnementales de l'impact d'une météorite et de l'effet de cette immense coulée ou de ces immenses coulées dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien c'est que les coulées, elles sont capables d'empoisonner encore plus l'atmosphère et aussi vite qu'une météorite. Et en allant regarder d'autres endroits du globe, en Sibérie, en Amérique du Sud, toutes ces trappes dont j'ai parlé, eh bien on s'est aperçu petit à petit qu'on était capable de faire correspondre tous les trappes des 300 derniers millions d'années à toutes les extinctions en masse des 300 derniers millions d'années, au point que sur 300 millions d'années, il n'en manque plus un. Nous avons trouvé pour une dizaine d'extinctions les 10 trappes, ils ont tous le bon âge, et pour 9 d'entre eux, il n'y a aucune trace d'impact de météorite. Il n'y a que dans le cas des trappes indiens du Deccan et de la disparition des dinosaures que, si je peux dire de façon un peu familière, on a eu droit à fromage et dessert. Il y a eu l'éruption qui a commencé les extinctions et certainement dans un monde très affaibli par ce gaz et cet effet biologique, cet effet climatique de l'éruption des trappes du Deccan, la chute de la météorite a certainement contribué à une part importante des extinctions. Mais on a ailleurs des traces de grandes météorites qui sont tombées à des moments où il n'y avait pas de volcan et qui n'ont fait aucune extinction. Donc ce qu'on pense maintenant, c'est qu'une météorite, ça doit être assez effrayant. Si la météorite mexicaine de Chicxulub tombait aujourd'hui sur Paris, en gros, la France serait rayée de la carte. Mais ce dont il faut se rendre compte, c'est qu'une extinction en masse d'espèces, ça veut dire que tous les individus de la plupart des espèces du monde entier disparaissent pour que les paléontologues, des millions d'années après, ne retrouvent plus de fossiles. Si la France était liquidée par une météorite, les paléontologues, dans 10 millions d'années, ne verraient pas d'extinction en masse parce que toutes les espèces existent ailleurs et continueraient à survivre. Donc une météorite, c'est effrayant, mais un volcan de trappe, c'est infiniment plus effrayant.
Et c'est le géophysicien qui parle. Est-ce le soufre qui est à l'origine de l'extinction de ces espèces au départ ?
Alors, on a cru pendant longtemps, et moi aussi, je croyais que l'effet climatique principal de ces grandes éruptions volcaniques, c'était le gaz carbonique. On a toujours cette idée que le gaz carbonique, gaz à effet de serre, est un des principaux déterminants de la planète et que si on en rajoute beaucoup, on va beaucoup chauffer. C'est ce qu'on entend dire pour le réchauffement climatique et c'est ce qu'on pense pour le passé géologique de la Terre. Et puis, en fait, on a réussi récemment à calculer combien de gaz carbonique était envoyé dans l'atmosphère par une coulée des trappes du Deccan. Ça fait beaucoup, je ne vous donne pas le chiffre qui se compte en milliards de tonnes, mais c'est un chiffre important. Mais on s'est aperçu que par rapport à ce qui existe déjà dans l'atmosphère, l'anomalie qui est créée n'est pas très importante. Alors que pour le soufre, avant l'éruption, il n'y en a pas beaucoup, et l'éruption en crache beaucoup, moins que du gaz carbonique, mais elle crée une anomalie beaucoup plus forte. Et donc, en fait, il fallait songer au fait que ce qui change le plus dans la composition de l'atmosphère après une telle éruption, c'est la composition de l'atmosphère en gaz sulfureux. Et c'est évidemment un poison pour beaucoup de plantes, pour beaucoup d'animaux. Et en plus, quand on envoie ce gaz qui devient de l'acide sulfurique dans la très haute atmosphère, dans la stratosphère, ça forme des nuages de microscopiques gouttelettes qui arrêtent une partie du rayonnement solaire. Et donc, ça entraîne un hiver dans la basse atmosphère. Donc, on pense qu'il y a des effets chimiques, des effets climatiques, et que c'est en effet le soufre qui est l'agent principal des modifications de la biosphère.
Reste à trouver encore pourquoi les oiseaux et les petits reptiles n'ont pas succombé à cette extinction d'espèces.
Alors en effet, quand on commence à comprendre l'horreur de la situation pendant ces grandes éruptions de trappe ou pendant les arrivées de météorites, la question qu'on se pose, c'est comment les petits ont pu survivre. Et ça pose de vrais problèmes. Et là, s'arrêtent mes compétences. Je ne suis pas paléontologue, je ne suis pas biologiste. Et je pense qu'en effet, les géologues et géophysiciens que nous sommes sont en train de poser des questions aux spécialistes de l'histoire de la vie, en leur disant, est-ce que vous êtes capable d'imaginer pourquoi telle plante, tel animal végétarien, tel animal carnivore ont été capables de survivre ? Alors les pistes, on en a. Par exemple, à la limite entre l'ère secondaire et l'ère tertiaire, cette limite où disparaissent les dinosaures, en fait, ce n'est pas que les dinosaures, c'est les deux tiers des espèces à la surface du globe qui sont effacées, et en particulier tous les animaux plus gros qu'un certain poids. J'ai oublié, mais je crois que c'est de l'ordre de 30 ou 40 kilos. Aucun animal de plus de 30 ou 40 kilos ne survit. Donc, en gros, survivent des animaux qui n'ont pas des besoins énergétiques trop grands. Nos ancêtres en particulier, les ancêtres des mammifères, étaient des animaux ressemblant un peu à des rats et à peu près de la taille d'un rat, qui vivaient probablement de façon souterraine, qui se nourrissaient probablement de racines et de matières en décadence, et donc des animaux qui étaient résistants. Et donc, il faut chercher comme ça dans les chaînes alimentaires, dans les niches où les animaux peuvent se cacher, la raison pour laquelle certains d'entre eux ont eu la chance de survivre, sans quoi nous ne serions pas là.
Alors, au cours de votre livre, vous parlez bien sûr de plein d'autres choses, nous ne pourrons pas tout citer, parce qu'il faudrait bien plus d'une demi-heure d'émission pour parler de tous les thèmes évoqués. Simplement, je fais référence à l'acidification des océans dont vous parlez dans votre ouvrage, et là, pour le coup, j'envoie nos auditeurs vers une conférence d'Annie Cazenave sur le site de Canal Académie sur l'acidification des océans, et puis également sur le rôle du soleil dans le changement climatique. Ce n'était pas forcément une évidence jusqu'à présent. Je pense qu'on parle plus des rayons cosmiques que de l'effet du soleil. Également, donc, vous pouvez écouter Thierry Dudoc de Witt qui réalisait de même une conférence sur ce thème au Bureau des Longitudes, émission donc que vous pouvez retrouver sur
excellente
le site de Canal
Académie. Excellente conférence que je recommande à tous vos auditeurs.
Voilà, le mot est passé. Et puis également une émission en habit vert en compagnie de Claude Allègre, aussi académique.
Est-ce qu'il était en habit vert ?
Il n'était pas encore en habit vert. Voilà une émission que nous vous invitons aussi à télécharger, donc des personnes de votre entourage et de votre milieu. Et puis bien sûr, donc, je renvoie à votre ouvrage « Nouveau voyage au centre de la Terre » paru en septembre 2009 aux éditions Odile Jacob, dans lequel vous pourrez retrouver tous les thèmes que nous avons rapidement évoqués, mais aussi bien d'autres. Dernière question de Vincent Courtillot pour terminer cette émission. Comme je le disais lors de cette émission, vous mettez au début de chaque chapitre des références à Jules Verne, « Voyage au centre de la Terre », en miroir de votre livre « Nouveau voyage au centre de la Terre ». Est-ce que, de la même manière que Jules Verne était visionnaire, vous vous sentez également visionnaire ?
Honnêtement, je ne crois pas, je n'ose pas l'espérer. Je pense que les visionnaires sont peu nombreux. D'ailleurs, les visionnaires ne sont pas forcément que des scientifiques. Jules Verne avait une solide compétence technique, mais c'était avant tout un remarquable écrivain. Moi, ce que je dirais, c'est que le chercheur scientifique, à défaut d'être visionnaire, il ne peut faire sa recherche qu'en s'amusant et en étant enthousiaste. Et c'est vrai que tous les sujets que j'ai eu la chance d'aborder au cours de ma carrière m'ont enthousiasmé, m'excitent beaucoup. J'ai envie de faire partager cet enthousiasme d'une science qui évolue. Et ce que nous croyons évidemment, et ce que j'espère dans ce livre, c'est qu'en racontant ce que je pense aujourd'hui, dont je suis parfaitement conscient que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, ça pourra être vu de façon différente, c'est qu'il en restera assez et que ça aura influencé la suite de la marche de la science, qu'en gros, on aura fait un vrai apport pour construire la pyramide qui n'est jamais achevée.
Et je précise que cet ouvrage était accessible à tous, parce qu'on pourrait avoir peur un peu du vocabulaire technique et que vous avez cette manière assez simple de raconter les choses de la même manière qu'on peut vous écouter. Donc ça se lit très facilement et qu'on comprend. Voilà.
C'est très gentil de me le dire. J'espère que c'est complètement vrai. J'ai peur qu'il y ait quelques passages un peu plus difficiles, mais je crois qu'il y en a une bonne partie où j'ai essayé en effet d'être accessible au plus grand nombre.
Merci Vincent Courtillot. Et puis alors, on vous dit une prochaine fois pour un prochain livre et donc avec de nouvelles avancées, de nouvelles connaissances en la matière. Merci.
Merci beaucoup.